Voilà, c'était la cabane à sucre. Et après s'être tourné vers le passé, tournons-nous vers l'avenir avec M. Philippe Ducharme et l'actualité scientifique. Bonjour, Philippe.
Bonjour François,
Ça
merci
va?
beaucoup.
Oui, tout à fait. Là, on parle de la cabane à sucre traditionnelle et puis maintenant, on va se projeter dans quelque chose qui est plus près de nous. Et on va parler d'ouïe d'abord.
Oui, tout à fait. Alors, une nouvelle qui a attiré mon attention d'abord sur le fait que en Colombie, dans une petite localité de Cali, près de Cali, pardon, il y a un sentier d'observation de la faune, en fait, plus précisément des oiseaux, un sentier qui est aménagé en fait pour les personnes malvoyantes. Donc, ça leur permet d'apprécier le son des différents oiseaux. C'est une activité qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler le tourisme inclusif. Donc, leur permettre également eux aussi de vivre une expérience agréable en nature. Et ça m'amène sur le fait suivant, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les personnes malvoyantes ont une audition plus développée.
Ah oui, on a évidemment, ça fait partie de ce qui pourrait être un mythe, là.
Oui, ben, ça pourrait sembler être ça. Ceci dit, il y a des études qui l'ont démontré, en fait, qui sont venues démontrer le fait qu'effectivement, les personnes avec déficience visuelle, voire la cécité totale, ont une meilleure capacité auditive, en fait, une capacité auditive plus développée. Et une étude parue en 2019, une étude qui a été faite par imagerie par résonance magnétique, là, ce qu'on appelle le IRM, c'est une étude donc qui a été capable de mettre en évidence que le cerveau des personnes malvoyantes est en mesure de mieux représenter les différentes fréquences sonores.
Ça, on peut le repérer parce que l'imagerie permet de vérifier s'il y a une activité électrique
Exactement.
plus importante dans la section du cerveau qui régit ou qui gère l'audition.
Exactement, donc la partie qui va justement traiter l'information auditive. Petit rappel rapidement, là, on parle de fréquence sonore, ce que ça veut dire finalement, bon, le son se propage dans l'air, il se propage en formant en quelque sorte des vagues. Et ce qu'on peut retenir ici, c'est que lorsque la distance entre les vagues est petite, on parle ici d'une fréquence sonore élevée, donc ça se traduit par un son aigu. À l'opposé, lorsque les vagues sont distancées l'une par rapport à l'autre, on obtient à ce moment-là une fréquence plus basse, ce qui est associé à un son plus grave. Donc, c'est une petite notion par rapport à ce que c'est que la fréquence sonore. Si on revient à l'étude, par contre, ce qu'elle a été capable de démontrer, cette étude-là, pour la première fois, c'est que la cécité fait en sorte que le cerveau de ces personnes-là va évidemment s'adapter à cette condition-là et va le faire de quelle manière? Ben, par la neuroplasticité. La neuroplasticité.
L'adaptation du système nerveux à de nouvelles conditions.
Tout à fait. Donc, en gros, essentiellement, c'est que le cerveau, les neurones dans le cerveau vont établir soit des nouvelles connexions, soit qu'elles vont en retirer, tout simplement, ou elles vont consolider des interactions qui existent déjà entre deux neurones, par exemple. Essentiellement, le but dans tout ça, c'est d'augmenter l'efficacité de la communication entre les neurones du cerveau. Donc, la résultante de ça, c'est que les personnes aveugles vont arriver à extraire beaucoup plus d'informations du son comparativement à des gens qui peuvent justement bénéficier de la vision
Qui a
pour.
priori vont peut-être davantage tirer l'information sur le milieu ambiant de ce qu'ils
Exact.
voient. D'accord.
Exact. Donc, on entend souvent parfois l'expression « Ah, ben oui, ces gens-là ont un sixième sens. » Donc,
C'est juste qu'on en a un quatrième dont on sert mieux,
Et
étant
voilà,
donné que le
c'est ça.
cinquième est défectueux. Voilà.
C'est ça, on peut dire ça. Donc, et ça m'amène sur un autre aspect de l'audition qui est l'écholocation. L'oreille, en fait, est constituée d'une partie interne et d'une partie externe. La partie externe étant le conduit auditif et le pavillon. Donc, la région de l'oreille avec plein de petits plis.
Ça, c'est les oreilles que l'on voit quand on dit que quelqu'un a les
Oui,
oreilles décollées ou les oreilles
c'est ça.
pointues. C'est le truc en cartilage là, qu'on a sur le côté
Et
de la
voilà.
tête. Oui.
Et voilà exactement. D'ailleurs, cette partie-là est unique à chaque personne. Donc, on peut quasiment voir ça comme une forme d'empreinte digitale, en ce sens qu'il n'y a pas deux oreilles qui se ressemblent. Ce qui est intéressant du pavillon, c'est qu'évidemment, c'est une partie qui permet de collecter et d'amplifier le son. de le diriger vers le conduit auditif. Mais encore, c'est aussi le pavillon qui est responsable, qui permet de localiser la provenance du son. Donc, est-ce que le son vient dans l'avant, vient dans l'arrière, vient des côtés? C'est le pavillon qui joue ce rôle-là. Et pour vous en convaincre, moi, je vous propose une petite expérience à tenter à la maison. À l'aide de pâte à modeler, donc de la plasticine, recouvrez les plis de votre pavillon.
D'accord.
Attention,
Faut pas mettre dans le conduit auditif, non, là. Non, il ne faut pas se rendre sourd.
Surtout pas. Mais d'accord. Simplement, en recouvrant les plis de l'oreille, vous serez à même de constater qu'il est rendu difficile, voire même impossible, de distinguer la provenance du son. Quelqu'un, par exemple, serait derrière vous en tapant des mains et vous auriez probablement de la difficulté à savoir que c'est derrière vous. En fait, vous n'aurez peut-être pas la capacité de distinguer, mais d'où vient ce son. Évidemment, si on gardait la plastique en place pendant quelques semaines, le cerveau s'y adapte.
Et on trouverait moyen d'utiliser l'information disponible, peut-être.
Et voilà, parce que le cerveau va tranquillement s'adapter à cette nouvelle situation-là et va le faire notamment par la neuroplasticité.
Mais la forme du pavillon de l'oreille, là, qui,
oui.
c'est pas une erreur de la nature ou un caprice.
Il y a une
raison scientifique, enfin, il y a une raison qui, au fil de l'évolution, a permis de créer des oreilles efficaces qui nous permettent
Absolument.
De savoir
voilà.
de quel côté vient le danger.
C'est ça. Voilà, voilà. Alors, ça fait le tour de ce sujet.
Ouais, mais, en parlant de ce qui peut permettre à une personne malvoyante ou aveugle de mieux s'y retrouver, il y a une avancée importante à l'Université de Sherbrooke.
Effectivement, donc une avancée importante au niveau de ce qu'on appelle les implants, disons, rétiniens, c'est-à-dire que une équipe de l'Université de Sherbrooke, dirigée par le professeur Régent Fontaine, ont mis au point une nouvelle, disons, technologie de puces électroniques, des puces qui sont implantées au niveau de la rétine, donc la membrane qui tapisse le fond de l'œil. Pour vous donner une idée, là, l'implant, là, en partant, là, c'est quelque chose qui est à peu près gros comme un flocon d'avoine. Fait qu'on imagine, c'est pas très gros.
C'est petit, un flocon d'avoine. Là. C'est
pas mal.
Ça
s'adresse à qui, en fait? C'est pour essentiellement les gens qui souffrent, par exemple, de rétinite pigmentaire. Donc, une maladie qui touche spécifiquement les cellules.
Une maladie qui touche votre animateur.
Voilà. Ah, oui, c'est ça. Donc, t'es en mesure de savoir de quoi il en retourne. Donc, ça affecte les photorécepteurs, donc les cellules qui tapissent la rétine. Ces cellules-là, en fait, il y a deux catégories. Il y a les bâtonnets, c'est les cellules qui permettent la vision périphérique, la vision nocturne. Il y a aussi les cônes, les cellules qui sont responsables de la vision centrale et notamment aussi de la détection des couleurs, donc la distinction des couleurs. Chez les gens qui sont atteints de rétinite pigmentaire, bien, ce sont d'abord les bâtonnets qui en souffrent. Donc, les bâtonnets vont se dégrader, les cellules vont mourir. Ça crée en quelque sorte une vision tunnel, ce que j'imagine tu dois connaître.
Oui, tout à fait. Alors, cette puce permet de capter de la lumière et voilà. de l'envoyer au cerveau en utilisant un nerf optique qui est encore sain.
Absolument. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'individu doit porter une paire de lunettes. Cette paire de lunettes-là dispose de caméras. Ces caméras-là vont capter la lumière, va ensuite la transmettre au niveau de l'implant rétinien, l'implant qui a été placé au niveau de la rétine. La transmission d'information se fait par de la lumière infrarouge. Et lorsque l'implant reçoit cette information-là, ben, il la transforme en signal électrique qui pourra ensuite être acheminé dans le cerveau pour être analysé, si on peut dire ça. Ce qui est quand même intéressant.
Oui, certain que c'est intéressant. Merci beaucoup, Philippe. On va se reparler le mois prochain pour d'autres sujets scientifiques. Merci.
Bon, ça va me faire plaisir. Parfait. Bonne journée à toi.